Merci Anne Fauquemberg, très belle fête à vous. Sur la route, Julie Gacon, avec Yvon Croisier et Sophie Bobert. Allez Yvon, un petit sourire.
Allez! Oh bah c'est à peine forcé.
Mais c'est pour la postérité, je fais de l'argentique. Un bon tirage, et dans 100 ans, dis-toi qu'une jolie collectionneuse accrochera peut-être ta photo dans son salon.
Mais si, il est très bien ton pull.
Puis peut-être que dans 100 ans, il sera à la mode. Hein.
Allez, un petit sourire. Joyeux Noël!
En juin 2012, elle achète sur Internet un lot de 250 photographies provenant toutes d'une même famille. De cette famille, elle ne sait rien. Les photos lui arrivent dans une grosse enveloppe quelques jours plus tard. L'enveloppe devient son trésor. Dans l'enveloppe, il y a des gens, à la banalité familière, bouleversante. Elle décide de les inventer, puis de partir à leur recherche. Dans l'enveloppe, il y a l'épaisseur d'un roman et les mystères d'une enquête. Elle, c'est Isabelle Monin, écrivain et journaliste, dépositaire des souvenirs de ces gens dans l'enveloppe, le titre de ce récit publié chez Jean-Claude Lattès et qui commence par ces lignes. Nous sommes sur la route des photos de famille, un itinéraire qui pour nous commence à 1 heure de Paris. C'est impressionnant ce lieu où vous nous avez donné rendez-vous, Frédéric Joly. On est dans un grand hall d'exposition à Chartres, Chartres Expo. On se croirait un petit peu à l'exposition universelle des vieilleries.
Il y a un petit peu de ça, oui, tout à fait. C'est impressionnant le déballage, toutes les vieilleries.
Alors, faut faire attention parce qu'on est vite bousculé. Il y a du monde.
Oui, il y a un rush, ça démarre à 8h pile, c'est-à-dire on n'a pas le droit de déballer avant 8h. Et à 8h, c'est ce que j'appelle le lâcher des fauves, c'est-à-dire que bon, d'un côté, on a le droit on commence à déballer, mais d'un autre côté, il y a les clients qui achètent, et là, c'est très très chaud. C'est vraiment du rush qui dure une grosse demi-heure, voire une petite heure, où là, à peine c'est déballé, bon, bah, parce qu'il y a des choses qui partent directement des sorties du camion. D'ailleurs, des gens appellent ça la vente au cul du camion. Ça illustre bien le fait qu'on n'a pas toujours le temps de déballer. C'est de l'antiquité et de la belle brocante.
Et au milieu de tous ces objets de valeur, parfois vous avez de vieilles photos anonymes.
Oui, tout à fait. Ça fait partie des fonds de brocante, on dirait. Quand on fait des débarras, on trouve souvent chez les gens des lots de photos de famille qui souvent n'intéressent personne.
En même temps, pour vous, Fred Joly, brocanteur, c'est votre fonds de commerce, le fait que ces gens-là veuillent se séparer de leurs photos de famille. C'est toujours le cas quand vous faites une succession, quand vous allez débarrasser les greniers ou les caves. Il y a toujours un carton de vieilles photos.
Oui, ils traînent toujours des photos à droite à gauche. Alors soit ça va être vraiment le grand classique, le carton à chaussures ou la boîte en fer qui est pleine de photos, planquée au fond d'une armoire. Quoi, planquée, c'est pas vraiment caché, c'est rangé au fond d'une armoire. Et après, souvent, c'est surtout on en trouve qui sont dispersés un petit peu partout. Le grand classique, c'est dans un livre. C'est en marque-page, trouver des photos en marque-page dans un livre. Ça faut toujours feuilleter les livres. On trouve des tas de choses dans les livres.
On trouve même des histoires dans les livres.
Ah ben, en plus, voilà. C'est même un de leurs intérêts.
Est-ce qu'on peut essayer d'en trouver au milieu de tous ces objets, de toutes ces antiquités?
Ah ben là, c'est les hasards de la brocante. Il hein. faut fouiller un peu, on peut y aller, on peut voir.
On va mettre 200 € en pochette. Ça va être 200 euros, putain.
Non, 150.
Bah, viens, attends, attends.
Voilà, ah. Ça s'en est, voilà.
Alors, sous emballage plastique, on peut les ouvrir ?
Oui, allez-y, allez-y. Il n'y a pas de souci.
Alors, bien. Donc il faut d'abord décrire ces petits clichés en noir et blanc, mat. Ouais.
Ça ressemble à de la photo, je dirais, de... Pas de communion, mais bon, ils sont tous endimanchés, quoi. Je veux dire, c'est une photo qui est prise lors d'un événement familial, quoi. C'est le... Alors ça, c'est typiquement le genre de photo qui est intéressante pour les costumes, vraiment des costumes du dimanche, hein. Par contre, bon, c'est une petite photo, moi j'ai pas mes lunettes, je peux pas en dire beaucoup plus.
Vous voulez les miennes ?
Je sais pas si ça va m'aller. Mais bon, c'est clair que c'est du costume de dimanche. Bon, a priori, en plus, c'est pas des riches, donc ils ont vraiment fait des gros efforts de présentation. Donc c'est sympa comme petite photo, ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre, là ? Bon, ça c'est une...
90 pour être en
plus. Ça c'est un jardin, une maison, bon ça c'est... Bon, là pareil, hein. Un monsieur avec son chien. Non, ça c'est effectivement c'est sympa, voilà. Ça, c'est, là on a de la réunion de famille.
Ils sourient pas des masses.
Non, souvent ils sont pas souriants. Dans les vieilles photos, ils ont souvent un ton très neutre, qui est d'ailleurs un peu ce qu'on nous demande maintenant sur les photos d'identité, etc. On nous demande justement de pas avoir d'expression, et ils sont souvent assez inexpressifs sur les photos anciennes. Mais bon, moi j'ai vu des photos de mariage. Ouais, donc les gens en dimanchés, et en regardant bien la photo, en l'agrandissant ou à la loupe, on s'aperçoit que, par exemple, il n'y a pas de lacets aux chaussures. Moi, j'ai une photo de famille, alors là, c'est une photo de ma famille, où il y a le mari qui est assis, sa femme qui est en train de lui servir du thé, qui a la théière penchée au-dessus d'une tasse. En fait, il n'y a rien qui coule. On voit que la tasse est vide, et en arrière-plan, sous une table, on aperçoit une bouteille de vin. Il y a une mise en scène qui a été faite par le photographe qui ne correspond pas du tout à la réalité.
Et vous, Fred Joly, quand vous consultez ces vieilles photos de famille que vous trouvez chez les gens que vous allez débarrasser, dont vous allez débarrasser les greniers, est-ce que vous prenez un petit peu de temps pour vous raconter ces histoires ?
Des fois, il y en a qui interpellent, oui. Il y en a qui interpellent plus que d'autres. Il y a un an à peu près, j'ai vu les photos d'un couple. C'était typiquement les photos de mariage, c'est-à-dire c'était deux portraits et qui étaient dans des beaux cadres en bois. Et je les trouvais émouvantes. Et donc la personne, j'ai dit, mais vous les gardez pas ces photos ? Et elle me dit, non, j'en veux pas. Je dis, mais c'est vos grands-parents ? Elle me dit, ouais, non, mais je m'en fous, j'en veux pas. Alors que c'était vraiment, là, sa grand-mère était superbe. Elle avait l'air triste, mais bon, belle robe, col en dentelle, comme ça se faisait début 20e, quoi, fin 19e, début 20e. Et vraiment très jolie, un visage assez inexpressif, plutôt triste. Et là, on n'a pas voulu. Et en fait, ce qui m'a même un peu gêné, parce que je les ai vendues, ces photos-là, et je les ai vendus en deux fois. Moi, je voulais pas les séparer, mais bon, on n'a pas voulu me les acheter ensemble. Alors, il y en a une, alors c'est ça qui est paradoxal, il y en a une, on me l'a acheté pour le cadre, ce qui veut dire que la photo, elle a été foutue en l'air. Et l'autre, c'est l'inverse, on me l'a acheté pour la photo. Mais bon, on les a séparés. Donc là, il y a un bébé, voilà. A priori, il y a trois générations, là. Peut-être quatre même, d'ailleurs, je dirais, parce que là, ça n'a pas l'air d'être son bébé. Pour un peu que tout ça soit la même famille, mais ça se pourrait. Il manque la fille, il manque la mère du bébé, mais bon, c'est là qu'on peut absolument tout imaginer, quoi. Sur une photo comme ça, on peut partir... on peut imaginer que la mère est décédée, et puis après, puis partir sur toute une histoire, quoi, je veux dire, en disant que c'est vraiment des supports à l'imaginaire.
Après l'enterrement de sa mère, Serge est retourné dans la maison de ses parents. Il n'y a plus l'odeur de son enfance, mais une humidité qui prend tout. Il va vendre la maison. Le brocanteur est à l'heure. Il gare son camion dans la cour, devant la porte du garage. En quelques heures, avec son fils, il vide la maison. « Prenez tout, je veux rien garder », a dit Serge. Parmi des dizaines d'autres, il emporte une boîte entière de photos sans légende.
Bonsoir Isabelle Monin.
Bonsoir Julie.
Ce tout dernier chapitre de la première partie de votre livre, Les gens dans l'enveloppe, c'est le début de l'histoire en quelque sorte. Ces photos que celui que vous appelez Serge laisse à un brocanteur, vous les avez retrouvées un peu plus tard sur eBay. Racontez-nous ce jour de juin 2012 quand vous recevez chez vous une grande enveloppe blanche.
Alors j'avais appris quelques temps auparavant qu'on pouvait acheter des photos de famille en fait sur internet, je ne savais pas. Depuis j'ai vu qu'effectivement sur les vide-greniers, dans les brocantes, il y a beaucoup de, y compris d'albums de famille à vendre, mais bon, je m'y étais jamais intéressée. Et j'ai appris ça chez un ami qui est collectionneur, qui m'avait montré sa collection, et donc voilà, le lendemain j'étais allée voir et j'avais constaté qu'effectivement il ne m'avait pas menti, qu'on pouvait acquérir ces photos proposées à la vente.
Pas très cher.
Pas très cher du tout. En l'occurrence, le lot que j'ai acheté, qui est constitué de 250 photos, à peu près, m'a coûté 10 euros. Et donc, voilà, elles sont arrivées chez moi dans une grosse enveloppe blanche. Alors, vous racontez ce qui s'est passé quand je les ai reçues. La première chose, c'est une odeur, en fait. C'est cette odeur d'humidité dont je parle à la toute fin du roman. Puisque je pense qu'elles avaient passé du temps dans une cave, ou en tout cas, voilà. Depuis, j'ai appris qu'elles avaient passé sans doute pas mal de temps dans une maison qui est au bord d'une rivière et donc qui sent l'humidité. Et puis ensuite, c'est la découverte un peu dans une espèce d'excitation. Je sais pas, il y a quelque chose d'assez incroyable en fait de voir 250 photos, c'est beaucoup de photos en fait. Et il y a des photos, il y a beaucoup de photos qui sont ratées, qui n'ont aucun intérêt, qui sont
mal cadrées, voilà,
contre-jour, flou, avec des animaux qui ont les yeux rouges, pardon, parce qu'on leur a mis un flash dans la gueule. Donc il y a un côté assez amusant, mais il y a un côté assez très vite émouvant en fait, puisque très vite ce qui sort de l'enveloppe, ce sont des gens très familiers, très banals. C'est des scènes vraiment de vie de famille, oui, parfaitement banales. Mon ami collectionneur, lui, il collectionne plutôt des photos où il se passe quelque chose d'étrange. Là, en l'occurrence, il n'y a rien d'étrange sur mes photos. Et c'est ça qui m'a beaucoup touchée.
Il y a une petite fille qui aurait pu être vous à son âge.
Voilà, donc il y a une seule enfant. Enfin, il y a principalement une seule enfant qui est seule tout le temps, qui porte un pull rayé de couleurs différentes. Tout de suite, je me dis, cette petite, elle doit être née dans les années 70, comme moi, parce que le décor, parce que les vêtements, parce que, voilà, même son visage, il raconte ça. Il y a pas mal de personnes âgées. La plupart des photos ont été prises dans un village. On voit que c'est un milieu social assez modeste. Je ne vais pas dire pauvre, parce qu'il n'y a rien de misérabiliste là-dedans, mais voilà, c'est des gens qui vivent dans un milieu modeste. Parmi les personnes âgées, il y en a deux qui attirent mon regard, enfin parce qu'elles reviennent souvent. Il y a une dame qui fait de la course à pied, qui doit avoir une soixantaine d'années. Donc on la voit en short avec des dossards et elle fait des courses et souvent elle gagne, donc elle pose avec ses coupes. Et puis il y a une autre femme plus âgée qui porte des lunettes fumées en permanence, y compris à l'intérieur des maisons, et qui ne sourit absolument jamais. Donc il y a un air à la fois mystérieux, un peu sévère, voire inquiétant, qui appelle pas mal au roman, pour le coup, parce qu'on se demande pourquoi elle a l'air aussi fermée. Et puis, il y a une photo, enfin, il y a deux photos, en fait, qui me saisissent. C'est ces femmes-là qui sont dans un camping, puisque de toute évidence, la famille va en vacances en camping. Et elles sont comme si elles étaient au bord d'une tombe, en fait, sauf que ce n'est pas une tombe qu'elles sont en train de veiller, c'est un poulet qu'elles sont en train de faire rôtir sur une rôtissoire portative.
Elles se recueillent sur un poulet rôti.
Voilà.
Alors ces photos, vous allez les observer, les manipuler, les accrocher au mur. Et à force de vivre avec eux, et parce que c'est votre métier d'écrire, vous vous mettez à imaginer à ces gens dans l'enveloppe une vie de famille avec tout ce que ça veut dire de secret, d'amour, de rancœur et d'absence. Car sur ces photos, manifestement, il manque quelqu'un.
Oui, voilà. Les photos donc, que je reçois sont sans légende, donc je ne sais absolument pas qui sont ces gens. Je peux juste me raconter ce qu'elles me disent, puisqu'elles sont quand même très bavardes. Et elles me disent un truc flagrant, c'est que la petite fille, au pull rayé, n'a pas de mère. Ou en tout cas, sa mère n'est jamais sur les photos. Et donc, à partir de cette absence, de cette absente, mon imaginaire va se mettre en marche, en fait. Et presque un an après avoir reçu les photos, je commence à écrire le roman. Des gens dans l'enveloppe, qui donc est construit autour de l'absence de cette mère et autour donc de l'histoire d'abandon dont sont victimes ou coupables les femmes.
Alors dites-nous un peu, racontez-nous l'histoire telle que vous l'avez imaginée. La narratrice, c'est Laurence, c'est la petite fille. Ses parents sont ouvriers, il s'agit de Serge, qui reviendra plus tard, et Michel, sa mère.
Voilà, donc le roman, il est bâti en trois parties, essentiellement. D'abord, raconté par Laurence, effectivement, l'abandon par sa mère. Et comment est-ce qu'on grandit quand on est une petite fille abandonnée? Comment on se construit avec l'abandon comme fardeau invisible, en fait? Puis, la deuxième partie, c'est Michel, donc sa mère, qui raconte... qui raconte, c'est pas elle qui parle, mais bon, bref. C'est l'abandon à l'amour d'une femme qui, par amour, va partir, va tout quitter, c'est-à-dire non seulement son mari, mais aussi sa fille, mais aussi ce milieu social, mais aussi ce territoire auquel elle était assignée par naissance, comme beaucoup de gens.
En Franche-Comté, puisque le brocanteur vous avait indiqué que les photos venaient de Franche-Comté.
Voilà, oui, donc j'ai situé le roman là. Ce qui m'intéressait là, c'était non pas de justifier, mais de comprendre ce qui peut pousser une femme dans les années 70 à quitter, à rompre. Elle part vraiment, elle part et elle disparaît. Et puis la troisième partie, c'est cette grand-mère aux lunettes fumées que j'ai appelée Simone, surnommée Mamie Poulet, donc à cause du poulet rôti. Et c'est la dernière nuit de sa vie, le moment où elle s'abandonne à la mort et avant de mourir, elle décide de manger ses photos pour avoir en elle, en fait, tous ses souvenirs. Voilà. Donc c'est à partir de l'absence et de cette histoire d'abandon qui, je pense, me vient du fait que j'avais l'impression que ces photos m'avaient été abandonnées aussi, d'une certaine manière.
L'histoire que vous racontez, c'est une histoire d'absence, d'abandon, de femme et d'un fleuve aussi, puisque la maman de Laurence, elle est partie suivre l'amour de sa vie, Horacio, en Argentine, où il vit. Et en Argentine, le fleuve qui coule à Buenos Aires raconte beaucoup d'histoires.
Oui, oui, tout à fait. Je crois que l'histoire du fleuve, elle vient de l'odeur que j'ai sentie en ouvrant l'enveloppe, cette odeur d'humidité. Et je voulais qu'entre tous mes personnages, il y ait de l'eau qui coule, il y ait un fleuve qui peut être à la fois une espèce de source de vie, d'énergie, puisqu'il y a un barrage aussi qui revient beaucoup, puisqu'il y a beaucoup de photos prises au bord d'un barrage. Donc à la fois source de vie, d'énergie, mais aussi menace. Et en l'occurrence, quand Michel part en Argentine, c'est sous la dictature. Et le fleuve de Buenos Aires, qui s'appelle le Rio de la Plata, est un fleuve à la fois gigantesque et évidemment qui apporte, comme tous les fleuves, la vie dans la ville, mais qui est aussi porteur de la mort, puisque vous savez sans doute que pendant la dictature, la junte a jeté en fait en avion beaucoup d'opposants à la dictature dans le fleuve. On jetait les gens vivants et ils disparaissaient dans le fleuve, ils étaient engloutis.
Et c'est ça qui vous a fait choisir le prénom de la petite fille qui raconte au début.
Oui, oui, tout à fait. Je voulais l'appeler Laurence puisque, voilà, Laurence. Je voulais qu'elle ne sache pas nager, qu'elle ait peur de l'eau et qu'elle s'appelle Laurence.
Alors, Mamie Poulet, elle décide d'ingurgiter la plupart des photos, mais certaines vont atterrir dans un carton chez un brocanteur. D'ailleurs, oui, qui choisit de se débarrasser de ces photos? Pourquoi? Dans le roman,
c'est donc Serge, le père de Laurence, le mari de Michel, parce que voilà, pour lui, à la mort de sa mère, il se sent dépeuplé, en fait, et il veut se débarrasser vraiment de ces photos, comme de tout le reste. Cette page que vous avez lue en introduction, en fait, c'est presque la première que j'ai écrite. Enfin, disons, je savais que mon roman se terminerait par ces mots, parce que je voulais vraiment faire une transition avec l'enquête et le moment où moi, je trouvais les photos.
Où vous allez partir à la recherche de ces gens, vus sur ces photos que vous avez acquises sur Internet. Vous auriez bien pu les trouver au compte-gouttes chez un revendeur spécialisé, car il y en a.
favorite en ce moment.
Je dirais. Alors, par rapport aux choses que je peux voir.
Alors, qu'est-ce qu'elle représente, cette photo en tout petit format, noir et blanc?
Alors, oui, c'est un format qui fait 4,5 cm, là, pour le coup, sur 6, 7. C'est une double exposition. Et ça arrivait assez souvent. C'est un accident photographique, on va dire, dans le sens où c'est une double exposition. C'est-à-dire que c'est en fait la personne qui a fait deux fois un déclenchement sur le même endroit du film. C'est-à-dire qu'il n'a pas avancé le film. Ce qui fait qu'il y a deux images qui se mélangent.
Qui superposent.
Qui se superposent. Voilà.
Fabien Brevard, vous avez dans votre boutique du marché des enfants rouges, ici à Paris, rempli de photos anonymes. On dit comme ça d'ailleurs, des photos anonymes?
Alors, on appelle ça, ça dépend, on peut appeler ça simplement de la photo amateur. Moi j'appelle ça de la photo amateur anonyme, j'aime beaucoup le mot amateur. On peut appeler ça de la photo vernaculaire, voilà, c'est... ou la photo trouvée, qui est la traduction du terme américain, qui est found photo, mais qui ne dit pas du tout la même chose en américain ou en anglais que le mot trouvé en français, puisque dans l'idée de found photo, il y a l'idée de chercher, et moi je trouve que c'est plus de la photo cherchée. C'est un peu mon travail au quotidien, c'est d'essayer de trouver justement la photo qui me surprend. Et donc, à partir du moment où elle me surprend, elle m'émerveille, elle risque de surprendre et émerveiller quelqu'un. Mais ça peut être pas du tout esthétique, et ça peut être une série de portraits de famille. Ça peut être vulgairement une photo de mariage. Ça peut être. Ce que j'aime, c'est quand on sent très fortement la présence de l'acte photographique. On sent le va-et-vient qui a eu lieu entre l'objet photographié et le photographe. Et comment les choses se sont déroulées? Qu'est-ce qui se passe dans cet instant décisif dont Barthes a parlé, qui est le déclenchement? Et quels sont les enjeux qui apparaissent? Parce qu'une photographie, elle peut dire beaucoup plus de choses sur la situation entre personnes. Qui fait quoi? Qui a le pouvoir? Qui ne l'a pas? Qui, etc. Ça raconte du rapport aux choses et du rapport aux autres. Et donc là, ça devient social, ça devient politique.
Est-ce qu'il vous est déjà arrivé qu'un client, enfin qu'une personne entre dans votre boutique et dise « Ah, c'était mon arrière-grand-père !»
Alors ça m'est arrivé 3500 fois. Sauf que sur les 3500 fois, il n'y en a qu'une. Où vraiment, la personne qui était en photo était la personne qui tenait la photo en question. Et la manière dont la personne tenait la photo m'a convaincu, a appris que c'était bel et bien lui qui était en photo.
Est-ce qu'il la tenait comment?
C'est-à-dire qu'il était impossible de lui reprendre des mains. C'est l'histoire, c'est tout simple. Ça se passe un 1er mai. J'achète ces photos dans une grosse brocante qui avait lieu à Survilliers, qui est du côté de l'aéroport de Roissy. Je tombe sur deux photos, sous verre, comme on a beaucoup fait dans les années 50, avec un petit craft autour, dont une des deux fait vraiment référence à des photos, à une photo qui aurait pu être prise par Doisneau ou Willy Ronis, le grand photographe un peu de cette époque-là. Qu'est-ce que c'est cette photo? J'essaie de vous la décrire. Elle est prise en contre-plongée depuis le sol. Ces trois enfants qui sautent dans l'espace, qui se tiennent la main, ces deux frères qui entourent leur sœur, donc la gamine est au milieu. Les trois enfants regardent l'objectif au moment du déclenchement. C'est une photo magnifique. Je la mets en vitrine un peu comme un trophée, parce que je suis fier de l'avoir trouvée. Et elle était installée depuis 2 heures, que je vois rentrer un couple où depuis l'autre côté de la boutique, je me dis, tiens, c'est bizarre, ils ne ressemblent pas à des clients habituels. Et là, ils sont tout de suite à droite dans ma vitrine et ils chopent la photo. Et là, on me dit, mais d'où vous avez cette photo? Ah, j'ai dit, écoutez, je l'ai achetée ce matin. Parce que le mec me dit, cette photo, c'est une photo faite par mon père, de moi, j'avais 10 ans, avec mon frère et ma sœur. À vous remémorer, j'ai moi-même de l'émotion, parce que lui était rempli d'émotion. Et là, quand il me regarde et qu'il me dit, et puis il y en avait une deuxième. Et la deuxième, il ne pouvait pas savoir que j'en avais une autre. Donc, il me dit, mais... Il voulait me la prendre. « Monsieur, je suis commerçant, je vends cette photo. » Et là, il me dit « Mais combien vous la vendez ?»« Ben, je pensais la vendre 150 euros. » Et là, il me regarde « Mais je ne vais quand même pas vous donner 150 euros pour la photo que mon père a faite de moi il y a 10 ans. » Je suis désolé, mais... Donc, sa femme a dit, je ne sais plus comment il s'appelait, je crois qu'il s'appelait Marc, elle lui a dit « Tu peux sortir. » Donc, le Marc, il était dehors. Et là, il ne savait toujours pas qu'il y avait que j'avais la deuxième. Donc, on s'est arrangé, j'ai baissé le prix, j'ai vu que c'était... Bon, il fallait que je fasse un effort. Et elle est sortie, et elle lui a donné l'autre. Et là, il est rentré, il m'a embrassé. Et ça s'est passé comme ça.
ce jeune homme ou ces femmes qui sont passées tout à l'heure devant votre magasin et qui sont arrêtées pour regarder les petites photos d'identité qui sont devant chez vous, à votre avis, qu'est-ce qu'ils se disent ?
Mais souvent, elles font référence, ces gens font référence à des détails. Oh, regarde, on dirait la coiffure d'un tel, ou on dirait, ou ça pourrait même être moi. C'est-à-dire que les gens, ça leur envoie beaucoup à moi, et ce que je trouve gênant, parce que j'ai vraiment la prétention d'avoir ouvert un lieu qui parle plus du nous que du moi. Je pense que depuis 11 ans et demi que j'ai ouvert ce lieu, il y a une seule personne qui a compris à 100% ce qui se passait ici. C'est une dame qui est venue me voir en me racontant qu'elle avait les photos de ses parents et de ses arrière-grands-parents, qu'elle était sans enfant et qu'elle se posait des questions sur la transmission, sur ce qu'allaient devenir ces photos. Et en fait, elle me dit, je n'ai pas tellement envie qu'elles finissent d'un coup comme ça dans une poubelle, on ne saura pas trop où elles iront. Et donc, elle m'a revendu des photos avec cette idée principale pour elle, c'est que ces photos, elles soient adoptées. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'elle passe ici tous les ans, tous les deux ans, pour voir si des photos que j'ai sélectionnées, évidemment, dans ce qu'elle m'a revendu, si ces photos, elles ont été adoptées. Et ça, c'est ça, pour moi, l'histoire de la transmission.
Sur la route des photos de famille avec Isabelle Monin, auteur des gens dans l'enveloppe. Isabelle Monin, c'est le terme, vous les avez adoptés, ces gens qui étaient dans l'enveloppe que vous avez reçue après les avoir achetés sur eBay.
Un peu, oui, c'est vrai que je me reconnais beaucoup dans ce que vient de dire Fabien. Adoptées, puisqu'elles avaient été abandonnées d'une certaine manière. Et moi, ce qui me touche dans ce qu'il a dit à la toute fin là, du reportage, c'est l'idée que effectivement, les photos de famille sont des objets un peu particuliers, puisqu'elles sont par définition très intimes, très singulières, très personnelles, mais par la transaction marchande, en fait, puisqu'on peut les acheter, et par le processus de transmission, de patrimoine, de mémoire, elles deviennent universelles.
Des objets de collection.
Oui, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'elles deviennent les photos de tout le monde. Ce sont nous sur les photos. C'est à la fois pas nous, et en même temps, c'est nous.
Ce qui est un peu différent de la démarche de Fabien Brevard, qui, lui, s'intéresse à ces photos amateurs anonymes en tant que témoin de la grande histoire. Et vous, c'est la petite histoire, l'histoire de famille d'une famille qui vous intéresse.
Oui, mais cette famille, c'est la famille de tout le monde, en fait. Je dis ça sans prétention, c'était pas du tout mon objectif de départ. Mais je me rends compte, là, maintenant, je réalise à quel point tout le monde peut s'y projeter dans ces photos. Et voilà, et c'est vraiment ça. Je pense que si on doit retenir quelque chose de ce que j'ai fait avec ce livre, c'est sortir de l'oubli, en fait, ces photos, et donc ces gens, et donc leur donner une vie, mais qui est à la fois une vie que moi j'ai inventée, fictionnée, et en même temps par l'enquête aussi, et donc c'est une vie qui sort de leur, je sais pas comment dire, du petit cocon privé, en fait. Voilà.
Et vous allez vouloir, donc, Isabelle Monin, confronter l'histoire que vous avez imaginée, vous, à la vraie histoire, l'histoire de cette famille. C'était un besoin, oui, pour vous, de les retrouver, leur donner aussi peut-être la parole, leur demander leur version à oui. eux. Alors, de quels indices vous disposez pour commencer? Le brocanteur, donc, qui vous les a vendus, vous a dit que le lot venait de Franche-Comté, du Doubs. Il se trouve que vous en êtes vous-même originaire. Alors, comment vous allez remonter la piste?
Ben alors, j'observe les photos, hein, je les regarde attentivement. Et puis, un jour, je me dis, si je retrouve le village dans lequel elles ont été prises, je pourrais aller là-bas, montrer les photos à des personnes âgées et retrouver peut-être la famille. Et donc, je regarde les photos, plus celles qui ont été prises dans le village, et je remarque un détail sur un clocher.
Parce que quelqu'un a référencé tous les clochers de Franche-Comté sur Google, donc vous allez pouvoir le retrouver. Rencontrer un homme, Gérard, qui lui, est bien qu'il ne soit pas très âgé, mais est la mémoire de son village.
Ouais, parce l'historien que local, en fait.
L'historien local, il est passionné. Alors, petit à petit, le puzzle se reconstitue et vous allez apprendre des nouvelles qui qui doivent vous bouleverser. Le prénom de la petite fille, par exemple, qui figure sur les photos, que vous aviez prénommée Laurence.
Et qui s'appelle Laurence.
Et oui. Qui s'appelle vraiment Laurence.
Et qui s'appelle Laurence comme son arrière-grand-mère, que moi j'avais appelée Simone, mamie Poulet, s'appelait aussi Laurence. Oui, c'est évidemment c'est troublant quand j'apprends ça. Ça fait partie d'un moment un peu vertigineux pour moi, puisque je vais rencontrer mes personnages, ce qui quand même est une chance inouïe.
Enlever les guillemets.
Voilà, enlever les guillemets que je leur avais mis pour les prénommer dans ma fiction. Donc sur le moment, je suis troublée. Après, en fait, maintenant, je me suis un peu calmée avec ce vertige, et je pense que c'était plus un sens de l'observation sociologique qui m'a permis de trouver, enfin c'est pas deviner d'ailleurs, hein, trouver voilà comment elle s'appelait. Elle déteste que je dise ça, mais je le redis, Laurence, désolée. Mais Laurence a une tête de Laurence, c'est-à-dire que Laurence ne pouvait pas s'appeler Marie-Charlotte ou Louane, comme on appellerait une petite fille aujourd'hui. Voilà, elle est née dans les années 70, dans ce milieu-là, dans ce coin de France-là, et voilà, elle aurait pu s'appeler Sandrine, Stéphanie. Sa mère m'a dit qu'elle avait hésité entre Isabelle et Laurence. Voilà, mais elle s'appelle Laurence.
Racontez-nous, décrivez-nous la rue Basse de Clerval où ils vivent quand vous arrivez, que vous découvrez pour la première fois cette maison que vous avez vue des dizaines de fois, que vous avez regardée pendant tous ces mois, ces longs mois sur les photos et que vous voyez en vrai.
Clerval, c'est un bourg, enfin un ancien bourg assez prospère de la vallée du Doubs, qui est donc vraiment posé au bord de la rivière. Et ça fait partie de ces villages qui se sont un peu éteints, qui sont un peu en crise d'identité depuis quelques années. Et donc, en contrebas du village, quasiment à la hauteur de la rivière, il y a donc ce qu'ils appellent la rue Basse, comme dans beaucoup de villages. Et c'est une rue extrêmement étroite, où les maisons sont toutes serrées les unes contre les autres, et où on a l'impression vraiment que le temps s'est arrêté, en fait. Vous voyez, les petits rideaux un peu fanés aux fenêtres, pas mal de personnes âgées qui vivent là, ou de familles, pour le coup, modestes. Et puis, en contrebas de cette petite rue, il y a une espèce de venelle, on va dire, une petite impasse qui mène à la maison donc, où ont été prises mes photos, qui est en réalité, on dit une maison, mais c'est vraiment une toute petite maison, très très modeste. Avec d'un côté un ancien potager et puis de l'autre côté une très belle vue sur la rivière.
Et vous rencontrez l'un de ses anciens occupants, puisqu'il a vendu la maison, il cherche à la vendre en tout cas, c'est le père de Laurence. Le jeune homme châtain des photos est à présent un homme de 69 ans.
Oui, donc c'est celui que j'avais prénommé Serge hein, dans mon roman, qui s'appelle en réalité Michel. Et que je rencontre, oui, ce jour-là, j'ai demandé en fait au notaire qui vendait la maison de pouvoir la visiter, sans dire pourquoi je m'y intéressais. Et quand j'arrive, en fait, Michel est dans la maison. Donc on se rencontre à ce moment un peu étrange. Je fais semblant de visiter pendant 3-4 minutes et puis je me sens pas très à l'aise. Donc très vite, je lui dis qu'en fait, je suis venue pour le rencontrer lui, que j'ai acheté des photos, qu'à partir de ces photos, j'ai écrit un roman et que maintenant, j'aimerais qu'il m'aide à raconter l'histoire de la famille. Il est hyper surpris, évidemment, au début. Et puis, il accepte de regarder avec moi les photos. Et très, très vite, et c'est la magie des photos de famille, très, très vite, on est dans son intimité, sa naissance, l'histoire de sa vie, qui a, comme toutes les vies, des failles, même des gouffres, pour le coup. Et donc, très vite, on est dans le registre de la confidence, en fait.
D'ailleurs, assez vite également, vous allez passer de l'histoire que vous aviez imaginée autour de l'absence d'une mère à voilà, corriger votre regard. Tout tourne autour de lui, en fait, cet homme-là. C'est Serge, ou c'est Michel plutôt, qui est le centre de cette histoire familiale.
Oui, alors, j'aime pas tellement le terme corriger, pardon, ni confronter, comme vous avez dit tout à l'heure. Mon objectif, là, dans ce projet, n'était pas de confronter ou de corriger. Tout ce que j'ai écrit dans le roman est vrai. Je tiens beaucoup à ça, en fait.
C'est une autre démarche.
C'était plutôt, exactement comme dans la photo, proposer un autre point de vue, différents points de vue sur les gens dans l'enveloppe. Puisque dans le livre, c'est l'occasion de le dire, il y a non seulement le roman, il y a donc l'enquête avec comment je les ai rencontrés et ce qu'ils m'ont raconté de leur vie, ce qu'ils pouvaient me raconter. Ils ne m'ont pas tout raconté, ils ne savaient pas tout d'ailleurs sur leur propre vie. Il y a aussi un album photo qui, je pense, dit une certaine vérité de ces gens. Et puis, il y a un disque qui propose un autre point de vue narratif. Pour moi, c'est vraiment plus une panoplie de formes de narration qu'une confrontation. Je crois pas qu'on puisse jamais atteindre de toute façon la vérité de quiconque. Mais voilà, effectivement, Michel s'avère être, dans la partie enquête, le personnage central vers qui tout converge ou peut-être de qui tout part, au sens les gens s'éloignent de lui. C'est un homme qui a une vie douloureuse, il a 70 ans aujourd'hui, il a été un enfant naturel, comme on disait quand on voulait être poli, quand on voulait être méchant, on disait un bâtard, et il a porté ça vraiment comme un poids et comme un fardeau invisible, puisque sa mère l'a laissé à ses propres parents pour partir vivre sa vie à elle.
Sa mère, c'est la marathonienne des photos.
Sa mère, c'est la coureuse tardive, voilà. Et en même temps, voilà, je ne veux pas non plus faire un portrait de Michel comme étant une victime absolue. C'est un homme qui a un sacré caractère, qui a beaucoup d'humour, qui a de l'esprit, qui s'est construit dans la solitude, mais qui, voilà, je veux dire, qui assume d'une certaine manière ce mode de vie-là.
Et qui aurait pu être importuné par votre démarche, ou la trouver absurde, ou intrusive, ou se méfier, mais en fait, non. Votre rencontre se...
Oui, mais je pense que peut-être vous savez ça, Julie. C'est un peu la magie. Enfin, la magie, c'est pas de la magie, c'est quand les reportages se passent bien. Quand on est attentif aux gens, ils sont contents de parler en général. C'est très rare que dans un reportage ou dans une rencontre comme ça, les gens n'aient pas envie de raconter leur vie. Moi, j'ai été 17 ans journaliste, grand reporter à l'Obs. Jamais je me suis fait jeter, en fait, parce que je pense que vraiment, si on arrive en étant vraiment intéressé, eh bien, les gens sont toujours heureux de raconter leur vie, c'est important et c'est pas si fréquent.
Isabelle Monin, votre démarche s'apparente à celle de l'archéologue du roman de William Jensen, cet archéologue qui accroche au mur de son bureau un bas-relief romain qui représente une femme qui marche. Cette femme, il l'appelle Gradiva et il devient obnubilé par elle et par son histoire telle qu'il l'imagine. Il la rencontrera aussi, mais seulement en rêve. Sylvia Guillet, alors tout a commencé pour vous avec cette photo-là.
Oui, tout à fait, c'est cette photo qui est, que j'ai achetée il y a déjà plusieurs années. Pas pour elle en fait, quand je l'ai achetée c'était pour le cadre. Je l'ai mise dans mon salon et puis elle est restée comme ça pendant presque deux ans. Tous les jours je la voyais, tous les jours je la côtoyais. Et puis un jour, un accident... le cadre tombe, la vitre se brise, je dois la changer. Je sors la photo, qui est une grande photo. C'est une photo noir et blanc, en fait, qui a été colorisée, avec trois personnages dessus, des garçons qui sont à vélo, deux garçons à vélo, et puis un petit garçon. Au début, d'ailleurs, je pensais que c'était une fille, au milieu. Voilà, ils ont, je sais pas, les deux aînés, ils doivent avoir une 17-18 ans, et puis le petit garçon au milieu, une dizaine d'années. Ils sont dans un paysage bucolique, mais hivernal. Ouais, peut-être une forêt, je ne sais pas. Il y a des arbres derrière qui n'ont plus de feuilles. Et donc, la photo a été colorisée.
Et leurs lèvres, à tous les trois, sont bien roses.
Oui.
Donc, vous sortez cette photo de son cadre. Et là, vous découvrez quelque chose que vous n'aviez encore jamais vu, alors que ça faisait deux ans que cette photo était pendue à votre mur.
Oui, tout à fait. Là, je regarde, en fait, je m'intéresse un peu plus à l'attitude d'un des deux garçons et je me rends compte que son bras, en fait, c'est pas son bras, quelqu'un l'a dessiné au crayon, à papier. Donc, en fait, il n'a pas de bras. Et à la place de son bras, c'est un autre bras, mais qui appartient manifestement à quelqu'un d'autre. Et là, en fait, en regardant de plus près où va ce bras, je vois une main. Et effectivement, je me rends compte qu'il y a une main qu'on a tenté de faire disparaître sous les rayures du pull du petit garçon bleu et rouge. En fait, il y a des doigts qui ont été grattés. Donc, il y a un quatrième personnage, en fait, sur la photo. Et là, je m'assois sur mon canapé et je me dis « Waouh, il y a un fantôme sur la photo ».
⁇ comment cette photo va vous obséder jusqu'à vouloir à tout prix retrouver qui est cette quatrième personne qui a été effacée et dont vous pensez dès le départ qu'il s'agit d'une femme ?
Oui, alors je pense d'abord qu'il s'agit d'une femme parce que j'ai l'impression de voir le dessin d'une poitrine et puis il y a une robe derrière. Après, le coup de la surprise passée, évidemment, j'en parle autour de moi et alors chacun commence à me faire part de ses hypothèses sur cette femme parce que c'est vrai que qu'est-ce qu'elle a bien pu faire pour mériter d'être effacée ? Parce qu'il y a un truc sur cette photo, c'est que les personnages se touchent tous. Il y a de l'amour, quoi. Et on est en droit de se demander, en tout cas moi, ça me heurte vraiment de me dire, mais pourquoi on efface quelqu'un ? Pourquoi on fait disparaître quelqu'un d'une photographie ? C'est pour ça qu'il y avait vraiment pas mal d'hypothèses. Par exemple, donc, quand j'ai consulté Fabien Brevard, qui m'a donné la date du tirage, parce qu'en fait, c'est une photo qui a été agrandie. Et en fait, lui m'a dit que c'est en agrandissant, le photographe a posé son doigt sur la tête de la femme pendant l'agrandissement pour la faire totalement disparaître. Donc on ne pouvait pas retrouver sous la colorisation le visage de la femme. Impossible. Parce qu'il avait, en fait, on l'avait empêché d'apparaître.
Ceci dit, Sylvia Guillet, dans cette période-là, juste après la Seconde Guerre mondiale, chacun peut avoir une bonne raison de vouloir oublier quelqu'un.
Oui, oui, tout à fait, oui. Oui. J'ai évidemment pensé aux femmes tendues. Parce que, bon, qu'est-ce qu'on peut imaginer en premier lieu quand on pense à cette période de la libération ?
La femme qu'on veut oublier parce que elle a fricoté avec l'ennemi.
Ouais, la femme qui a fauté. Voilà. Il y avait aussi l'hypothèse d'une femme aimée par les deux garçons, parce qu'en fait, on ne sait pas donc si son frère ou pas. Rien ne l'indique. Et effectivement, peut-être que cette femme, elle était aimée par les deux hommes. Et il y a eu aussi l'hypothèse de peut-être la servante, enfin la bonne, la nounou, la femme qui n'est pas vraiment hyper importante aux yeux des parents et qu'on décide de faire disparaître, qu'on a prise en photo sur le coup et puis que finalement on décide de faire disparaître parce qu'on veut garder que la fratrie, ça c'est aussi possible. C'est vrai que vous parliez d'obsession, c'est vraiment devenu une obsession en fait. Mais l'origine de tout ça, c'est vraiment, je ne sais pas, je me suis projetée, je pense, sur cette femme disparue, cette femme effacée. Et j'ai ressenti vraiment à fond cette violence de l'effacement. Et ça a été le moteur de cette enquête. J'ai vraiment fini par remuer ciel et terre pour la retrouver. C'était un peu comme si elle était rentrée chez moi pas par hasard, quoi. Comme si elle était venue me trouver pour que je lui rende une identité, un visage. Et donc ça a fini par être tellement fort, ce sentiment, que ben voilà, j'ai passé le pas d'embaucher un détective privé pour m'aider. Et j'ai bien fait parce que voilà.
Du Luc détective, voilà. Qui va retrouver, qui va céder des légendes inscrites derrière la photo. Il y a quelques annotations que vous avez du mal à déchiffrer au départ. Il y a plus ou moins ce qui ressemble à une adresse. Il va retrouver la rue, il va retrouver des personnages. Bon, il va remonter le fil de l'enquête et vous allez pouvoir résoudre cette énigme dont vous avez fait un film.
À l'origine, j'avais pas du tout pensé à faire un film. Et c'est vrai que c'est le fait d'embaucher ce détective sans garantie de bonne fin et de dépenser de l'argent que je n'avais pas forcément pour ça qui a fait que j'ai décidé d'en faire un film. À un moment, mon compagnon, voyant que j'étais vraiment totalement obsédée par cette femme, il n'y a pas d'autre mot, hein. À l'époque, j'étais vraiment totalement obsédée par cette histoire. Il m'a posé une question qui m'a fait pas mal réfléchir, c'est est-ce que si ça avait été un homme, est-ce que je serais allée jusqu'au bout ? Et peut-être que non. C'est le fait de se projeter, et ça c'est un processus assez courant dans la photographie, on se projette, et c'est pour ça que certaines photos qui ne sont où c'est des gens qu'on ne connaît pas peuvent nous toucher jusqu'à nous ébranler, tout simplement parce qu'on se projette et on projette des éléments de notre propre histoire sur la photographie, et tout à coup on s'effondre parce que un collier, parce que une attitude nous rappelle quelque chose dans notre histoire intime et nous bouleverse, quoi.
Finalement, ça vous a pris combien de temps jusqu'à trouver le fin mot de l'histoire ?
Ça a bien duré. Enfin, l'enquête a duré au moins 2 ans. 2 ans. Après, ça a été très vite, en fait, une fois que j'ai rencontré l'inspecteur Barrett, comme je l'appelle, enfin, monsieur Barrett du cabinet du Luc Détective. Ça a été très vite. Mais c'est vrai que toute seule, en fait, j'étais incapable de les retrouver, quoi.
Sans dévoiler tout de votre histoire, comment ont réagi ceux que vous avez fini par retrouver, donc les descendants de cette femme et en fait les acteurs de cette photo?
En fait, c'est donc le petit garçon que j'ai retrouvé, qui est toujours vivant aujourd'hui. Et donc lui n'avait jamais vu cette photo, mais il a été extrêmement touché et très heureux, en fait, de voir cette photo, que cette photo existait et de pouvoir me parler des gens qui y figuraient. Ça lui a fait très plaisir, ouais.
Et ceux qui n'y figuraient plus.
Et ceux qui n'y figuraient plus, ouais, tout à fait. Oui.
Isabelle Monin, est-ce que vous diriez, vous aussi, que vous vous êtes projetée en regardant le visage de cette jeune fille, cette petite fille, née vraisemblablement dans les mêmes années que vous, quand vous avez reçu la grande enveloppe blanche ?
Sans doute, oui. Comme personne et comme romancière particulièrement, je pense qu'il y a une propension à se projeter, à s'inventer des histoires à partir de rien. Mais j'ai été plus loin, un peu comme la personne qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire il y a d'abord une projection, puis après essayer de rencontrer en fait l'objet de la projection.
Qui était une obsession peut-être comme pour Sylvia Guillet.
Totalement une obsession.
Est-ce que vous avez chez vous des photos de votre propre famille, Isabelle Monin ?
Pas beaucoup.
Peut-être qu'un jour, quelqu'un les trouvera dans une brocante et pourra dire, comme vous l'écrivez vers la fin de votre livre, dans l'enveloppe, il y avait une famille d'aujourd'hui, des gens qui se sont aimés, des liens qu'on ne dénoue pas et des affections indéfectibles. Merci Isabelle Monin.
Merci beaucoup.
D'avoir été avec nous ce soir. Les gens dans l'enveloppe est un livre paru chez Jean-Claude Lattès, c'est un très beau cadeau de Noël. Des gens dont Alex Baupin a fait des chansons, dont 10 chansons originales directement inspirées de votre roman. Merci à Fred Joly, brocanteur à Chartres. Sa boutique s'appelle La Brocante des Hauts de Chartres. À Fabien Brevard, d'Images et Portraits, au marché des Enfants Rouges à Paris. Ainsi qu'à Sylvia Guillet, dont le film Une femme effacée sera diffusé bientôt sur France 3. On vous tiendra au courant de la date sur notre compte Twitter. Toutes les références sur notre site internet, page sur la route, sur le site de France Culture, page sur laquelle vous pouvez apporter votre propre témoignage. Bien sûr, notre petite entreprise poursuit sa route. Yvon Croisier au volant, copilote Sophie Bobert. Émission enregistrée à la Maison de la Radio. Et ce soir à la technique, c'était David Fedelman. La semaine prochaine, nous serons sur la route de Pierre Bonte, journaliste France-trotteur de Bonjour Monsieur le Maire dans les années 60 et 70, puis de Petit Rapporteur. Il est 19h sur France Culture, l'heure de retrouver Marie-Hélène Fraissé pour Tout un Monde.